Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est tout le problème des gens de radio. Oui, on dit des gens de radio comme on dit des gens de maison, et certainement plus encore quand on parle des gens de la maison de la radio, puisque nous sommes des gens dans la maison de la radio. Enfin bon, leur problème à ces gens-là, c'est quand ils ont affaire à des invités dont l'image est tellement forte qu'elle les ramène souvent à l'un de leurs personnages en particulier, quand ils sont évidemment infiniment plus complexes que cela. Prenez Valérie Bonneton, par exemple, alias Fabienne Lepic, dans la série Fais pas ci, fais pas ça, qui fit sa gloire télévisuelle. Alors certes, il y a peut-être de la Fabienne dans Valérie, mais Valérie ne se résume pas, et j'ajouterais heureusement pour elle, à Fabienne, mais riche de toutes les Véroniques, Annie, Louloute, Sandrine, Eva, Béatrice, Mylène, Elsa, Isabelle, Irène, Corinne, et j'en passe, qu'elle interprétait avec toujours le même talent et la même inspiration. Qui est-elle aujourd'hui, alors que tout le monde se demande qui est Monsieur Schmitt dans la nouvelle pièce de théâtre de Sébastien Thierry? Eh bien, nous avons une petite heure pour tenter de le comprendre. Cette émission a pour titre « Qui est Madame Bonneton ?» et pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Et bonjour Valérie Bonneton.
Et bonjour Antoine.
Et bienvenue.
Merci, merci.
Pop, pop, pop. Alors pour commencer, je voudrais saluer la mémoire de Monica Vitti, l'immense actrice italienne qui marqua plus d'une génération en tournant avec Lozé, Antonioni, Buñuel, Scola et tant d'autres, aux côtés des Mastroianni ou autres Terence Stamp. Cette grande dame vient de nous quitter à l'âge de 90 ans et avec elle, la Ventura des années 60. Et moi je dis ciao. Bellissima, ciao, ciao.
Bella, la beauté
ciao.
Italienne.
Oui, la beauté absolue. Bien, revenons en France en ce 2 février 2022. Valérie, vous venez donc nous parler de Qui est Monsieur Schmitt, qui n'est pas la nouvelle pièce, parce que c'est une pièce qu'il a écrite il y a déjà quelques années, de
exactement.
Sébastien Thierry,
ouais.
Et dans laquelle vous jouez en ce moment aux côtés de Stéphane de Grotte au théâtre Édouard VII, et cela jusqu'au 2 avril. Mais avant d'en parler, parlons un peu de vous.
Oh.
Valérie Bonneton.
J'avais oublié que j'avais dit à un moment donné Fabienne Lepic, et là, vous me le rappelez.
Ah, je suis désolé, juste rafraîchir votre mémoire. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas insister dessus encore plus.
Non, si.
Bon, d'accord,
je
d'accord,
l'adore,
d'accord,
Fabienne.
D'accord. Alors, Valérie Bonneton, on ne vous présente plus, ou du moins c'est ce qu'on pourrait penser après avoir partagé votre quotidien pendant des années dans Fais pas ci, fais pas ça, la série désormais culte de France 2. Pourtant, si on connaît sans doute Fabienne Lepic... Valérie Bonneton, elle, reste un mystère. Je vous soupçonne même d'être d'autant plus mystérieuse que vous vous cachez en pleine lumière, comme si l'évidence vous servait de masque.
Ce n'est pas faux.
Ce n'est pas faux, c'est donc à peu près exact.
Je pense que le fait de jouer, c'est le meilleur moyen de se cacher.
Mm-hmm. Et de quoi vous
cachez-vous ?
Parce qu'on
peut être... De ma timidité, de... Mm-hmm. de...
Ah, ça va mieux la timidité quand même.
Ouais, pas toujours.
Non.
Ah, vous êtes drôle, non, on ne se guérit pas comme ça.
Ah,
non,
oui,
non.
Vous étiez hyper timide.
Oui, j'étais hyper timide. Non, mais en fait, je n'aime pas, pour vivre heureux, vivons cachés. J'aime pas trop. Je trouve que notre métier, c'est de pouvoir s'exprimer. Un artiste, c'est de s'exprimer, mais c'est pas de s'étaler.
Mm-hmm.
Donc ça, j'en ai moyennement envie. Donc j'évite. Par exemple, je n'ai pas de réseaux sociaux. Je n'ai jamais eu Facebook. Mon fils m'a dit, maman, c'est terminé. Je te mets Instagram. Donc il m'a mis Instagram. Et puis par erreur. Un plan de travail de ma cuisine est parti sur Instagram, c'est tout ce que j'ai envoyé, c'est la seule chose.
Ah, vous êtes bien la Valérie Bonneton d'Instagram donc.
Avec mon plan de travail,
oui,
c'est une photo
que...
et une photo. Donc je n'ai rien du tout. En fait, je trouve que c'est un peu une dictature à laquelle j'ai pas envie de céder. Je sais pas. Je n'aime pas ça.
Bon, en tous les cas, moi, je ne renonce pas à percer votre mystère, ne serait-ce que parce que ça me fait une transition toute trouvée avec ce morceau de Jacques que nous allons écouter ensemble. Ça se voit, car oui, Valérie, ça se voit.
Les jours passent, se répètent. J'aimerais bien que ça s'arrête. J'ai besoin de faire la fête. J'ai trop d'onglets dans la tête. Les jours passent et se répètent. J'aimerais bien que ça s'arrête. J'ai besoin de faire la fête. J'ai trop d'onglets dans la tête.
Toi, je sais pas ce que tu fais là. Ta bataille est tellement loin. Au lieu d'être qui tu es, tu y penses et ça se voit. pense et ça se voit.
C'était Jacques avec son morceau « Ça se voit » que nous écoutions ensemble avec Valérie Bonneton en nous secouant comme des petits pruniers. Valérie étant notre invitée aujourd'hui. Oui, Valérie est au théâtre en ce moment dans « Qui est Monsieur Schmitt ?» et nous allons en parler. Mais auparavant, nous tenterons de répondre à la question « Qui est Madame Bonneton ?» Alors pour commencer, tordons le cou à une confusion. Vous n'êtes pas...
Fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention.
Non, alors d'accord, vous n'êtes pas Jacques Dutronc, donc, ou plutôt vous n'êtes pas Fabienne Lepic, l'inoubliable mère de famille coincée, franchement folle de Fais pas ci, fais pas ça, la série qui, pendant près de 10 ans, vous a vu hurler sur France 2. Il y avait quand même un petit peu de vous dans cette Fabienne-là, ou pas ?
Bien sûr, parce que c'était un exutoire à ce moment-là. Quand on n'a pas travaillé pendant des années, ouais, etc., d'un seul coup, on peut y mettre toute la frustration et aussi d'élever des enfants, les enfants qui sont pas que mes enfants aussi, beaucoup de monde, faire des repas, etc. Là, tout est venu dans le personnage. Ouais. Là, d'un seul coup, en fait, je me suis pas posé la question comment je vais jouer ? Est-ce qu'il faut que je prenne une voix plutôt ? Non, là, j'y suis allée. Voilà, j'avais ce besoin d'interpréter qui était violent, et j'y suis allée et je me suis régalée parce que j'ai vraiment il y a eu beaucoup de choses à jouer pendant ces 10 années.
Et Valérie, j'en profite pour rappeler aux oublieux que Fabienne Lepic est un personnage aux emportements fort peu digne d'une heure de grande écoute sur le service public.
Dis donc, espèce de petite raclure de merde là, c'est moi qui te pétais ton salaire avec mes impôts. T'aider.
Alors c'est pas vraiment ce qu'on imagine hein, d'une ancienne élève du Conservatoire National d'Art Dramatique. Molière se serait-il exprimé de cette façon ?
Mais oui, il y avait pas mal d'insultes, enfin quand même, voyons. Des insultes assez drôles chez Molière. Bon là, il y en avait. Non, je trouve que c'est la même chose, on est chez Molière aussi, fais pas ça.
Molière, dont on fête cette année les 400 ans de la naissance, ainsi que celle de Michel Drucker, et qui a d'ailleurs été votre première rencontre avec le théâtre, avec, dites-vous, les Fourberies de Scapin, montées par votre prof au collège en 5e.
Je suis fan de Molière, j'ai toujours adoré, j'ai découvert en 5e, en effet, les Fourberies de Scapin.
Il s'est passé quelque chose, donc, avec les Fourberies.
On nous a demandé de travailler une scène, et puis voilà, de l'interpréter, de venir dans l'espace, devant les autres, et de la jouer. Je peux pas expliquer, ça a été magique, ce moment-là. Le fait de... physiquement, de raconter une histoire avec son corps et de le jouer. Enfin, le souvenir que j'ai, c'était de la magie. J'ai adoré.
Alors que vous étiez toute introvertie et timide, comme vous dites l'être encore aujourd'hui.
Ouais, j'étais super timide quand même. Ouais, j'étais super timide. Mais comme on a été un peu élevé comme des plantes sauvages, je dirais, qui poussent comme ça. C'est-à-dire que j'étais très très spontanée. Donc je faisais beaucoup rire parce que j'avais absolument pas peur du ridicule.
Est-ce que vous avez une bise comica aussi ?
Ça vient, je pense que ça vient de l'éducation aussi de ma mère, en fait, qui était aussi comme ça, qui était assez brute de pomme et du coup, j'étais très spontanée. Enfin, j'avais pas peur de poser n'importe quelle question en cours
Ces sensations-là, alors c'est une question à titre perso, mais ces sensations-là que vous avez éprouvées donc en cinquième en jouant les Fourberies de Scapin, vous les conservez aujourd'hui quand vous jouez ? Vous retrouvez
ah oui.
ça?
Ah oui, ça je ne l'explique pas. C'est vraiment, c'est un endroit, la Seine, où je me sens comme un poisson dans l'eau. Je me sens vraiment bien, quoi. Je me sens heureuse. Je me sens heureuse. Je sais que ça va commencer, ça n'empêche pas le trac, ça n'empêche pas. Mais quand c'est parti, hop, et c'est la liberté. Et je suis là, concentrée, et c'est... C'est à chaque fois un régal. C'est une récompense de fin de journée, en fait, de jouer. C'est fou, hein.
Ouais, un bonbon.
Et de plus en plus, plus le temps passe, plus je vieillis, plus c'est, enfin, je prends conscience que c'est une chance énorme de pouvoir s'exprimer.
Donc Valérie Bonneton, quand vous êtes en cinquième à jouer les Fourberies de Scapin, il y a quelque chose en vous qui se déclenche et qui détermine cette vocation. On peut aller jusque-là?
Bah, c'est-à-dire que j'avais envie d'être actrice, mais je l'ai dit à personne parce que je me suis dit pour qu'elle se prend, elle va être actrice et tout ça. Bon, et puis c'est revenu à 17 ans quand j'ai refait du théâtre au lycée avec Madame Schoenfeld, ma prof de théâtre, où j'ai joué Ismène dans Antigone d'Anouilh, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et là, je suis allée la voir, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit, ça y est, j'ai réfléchi, au lycée de Deauville, j'étais.
Ouais, ouais.
Et je me suis dit, je veux faire ce métier. Et elle m'a dit, oh non, pas toi.
Pourquoi?
Parce que je faisais rire, alors je devais pas faire rire.
Henri chez Molière, on rit beaucoup,
et j'ai
non
fait, c'est pas grave. Et je me suis dit, quand même, je vais tenter, je rêvais du conservatoire, je rêvais de cette école, et je me suis dit, je vais passer ce concours, et si je l'ai, je continuerai, sinon j'arrête.
Et si je comprends bien, vous avez donc suivi une formation tout à fait classique, qui aurait dû peut-être vous mener à la Comédie Française.
Oui, classique, ça veut rien dire. Il y a personne de classique. Si on veut, enfin, c'est une formation, on apprend tout. C'est surtout une école formidable, franchement.
Ouais.
Et voilà. Et en même temps, les journées de sortie où on devait présenter des scènes très classiques, il y avait un parcours libre et beaucoup choisissaient des scènes classiques. Moi, j'ai eu envie de jouer Podane. J'ai fait Podane, mais un peu déluré. Podane, un peu voilà, un peu inventé, tout ça.
Voilà. Vous dites qu'au conservatoire, vous étiez fasciné par Jeanne Balibar, par exemple, qui disait des choses comme « La semaine prochaine, je vais apprendre à jouer du violon ».
Exactement, Jeanne, on s'est rencontrés au cours Florent et je l'ai retrouvée il y a pas longtemps. J'ai tourné avec Olivia Sayas, donc j'étais super heureuse de la retrouver parce que ça faisait longtemps, voilà, on s'était perdu du. Mais oui, elle m'impressionnait parce que c'est pas du tout la même éducation. Ses parents étaient philosophes, à son père, et puis elle, voilà, très 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 cultivée. Moi, beaucoup plus, déjà peut-être un sens plus populaire, je ne sais pas, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais et pourtant voilà, on s'est merveilleusement bien entendu, on était amis et toujours, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup.
Valérie, j'ai
une grande actrice, une très grande actrice.
Oui, j'ai lu quelque part que vous rêvez d'interpréter au cinéma ce rôle.
Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme.
Miss Tinguette, donc, la chanteuse star et actrice des années 20. Vous chantez du Miss Tinguette au naturel?
Je chante pas du Miss Tinguette. Cette époque-là, ce personnage-là, cette femme forte-là, comme Joséphine Baker, évidemment, c'est tentant. Et puis, je sais pas, je pense que... Je sais pas pourquoi. J'ai quelque chose un peu... J'aurais pu vivre dans ces années-là. J'aurais adoré connaître ces années-là.
Une forme de gouaille.
Ouais, puis tout le Montparnasse, là, c'est voilà, c'est cette époque-là, ça devait être assez fou, non?
Les années folles, non? Parigo, un peu, non?
Un petit peu, il paraît.
Les Normands vous disent que vous avez un accent parigo?
Un petit peu, mais j'ai pas l'accent normand en tout cas.
Non.
C'est l'accent ch'ti. Mais oui, un peu parigo, un petit mélange.
Bon ben, Miss Tinguette, j'aimerais bien voir ça un jour, moi. Ouais. Valérie Bonneton en Miss Tinguette, ouais.
Ouais.
Vraiment.
Ouais.
Bon, d'accord. Valérie, dans un instant, nous allons parler avec vous et Charline Roux, qui va nous rejoindre, de la pièce Qui est Monsieur Schmitt de Sébastien Thierry, que vous jouez au théâtre Édouard VII avec Stéphane de Groot jusqu'au 2 avril. Mais avant ça, écoutons ensemble ce morceau du groupe Parcells, Something Greater.
Thank you.
France Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline, oh oui, bonjour Charline.
Bonjour.
Si c'est bien vous, parce qu'après avoir vu la pièce Qui est Monsieur Schmitt avec notre invitée Valérie Bonneton, je doute de tout. Charline,
vous avez bien raison.
Qui est Monsieur Schmitt, un Picard?
Un Picard? Non, je ne crois pas. Eh ben, c'est précisément le nœud de l'intrigue. Monsieur et Madame Bélier dînent paisiblement dans leur salon quand soudain le téléphone sonne. Événement d'autant plus improbable qu'ils n'ont pas le téléphone. L'interlocuteur au bout du fil demande à parler à Monsieur Schmitt. Ni Monsieur ni Madame Bélier n'en ont jamais entendu parler. Et puis que se passe-t-il dans cet appartement? La déco a changé, les vêtements ne sont pas les leurs et surtout, ils sont enfermés à l'intérieur. Et ça, ce n'est que le début du mystère. La pièce est signée Sébastien Thierry, l'homme à qui l'on doit entre autres Cochon d'Inde, Deux hommes tout nus, Momo ou encore 8 euros de l'heure. Que vous avez joué, si je ne m'abuse.
Oui.
Déjà de très beaux voyages en absurdie, pour employer un terme cher à votre partenaire de jeu.
Oui.
Peut-on seulement, aujourd'hui, refuser de jouer du Sébastien Thierry ou ce serait pure folie?
Non, écoutez, ce serait pure folie. Parce que moi, je suis archi fan de Sébastien Thierry depuis que je le connais, c'est-à-dire 30 ans. C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées quand j'étais au Courflan. Et il était, je voulais te parler de lui parce que il est exceptionnel, quoi. Il est extraordinaire. Mais, et après, il est arrivé au conservatoire une année après moi. Et quand il jouait un texte de Molière, au milieu de la scène, toute la salle pleurait de rire, avait des larmes de rire, parce qu'il improvisait, il changeait tout, et tout le monde disait, bon, il est extraordinaire. Enfin, nous, on pleure de rire, mais il fera rien dans la vie parce que. Et mon Dieu, s'il m'entend, je devrais peut-être pas raconter sa vie.
Ah, mais, au contraire.
Mais voilà quelqu'un, voilà. Voilà, c'est le talent pur. Voilà, c'est quand on dit bah lui, par contre, non, c'est compliqué parce qu'il faut quand même qu'il soit dans les rails. Et voilà, il est. J'ai rarement vu un mec pareil, quoi. Enfin, je trouve que ses pièces sont vraiment toujours extrêmement déroutantes, inquiétantes, angoissantes, et je trouve que c'est la source toujours du rire. Et donc toutes ces pièces, en fait, je les ai toutes vues, je crois. Je les ai toutes vues. Et là, de nouveau, on rentre dans un cauchemar, dans un tourbillon, c'est parce que le téléphone sonne et on n'a pas de téléphone. Donc je dis, bah oui, alors le téléphone sonne, puis on n'a pas de téléphone. Je dis, ah oui, merde, c'est vrai, t'as raison.
Ouais.
Et puis ça commence. Et on rentre dans le tunnel du cauchemar. C'est en même temps, c'est toujours les ressorts de chez Fedo.
Et signalons aussi au passage que Sébastien Thierry est notamment l'auteur du scénario de L'Origine du Monde, le premier film de Laurent Lafitte, justement écarté des nominations finales au César.
Oui.
Bien, c'est dit. Qui est Monsieur Schmitt? C'est étrange et ça ressemble à ça.
Il y a un téléphone qui sonne.
Et alors?
On n'a pas le téléphone. Allô? Non, je ne suis pas Monsieur Schmitt, non. Mais le tableau, là, il représente un chien de chasse.
Mais on ne chasse pas.
Il se passe quelque chose, Nicole. Je sais pas quoi, mais il se passe quelque chose, là. C'est quoi ce traquenard? Il y a sûrement une explication, tout ça.
Qui êtes-vous?
Monsieur et Madame Bélier.
Vous n'êtes pas les Schmitt?
On va rien faire, hein.
Vous êtes dans l'appartement de Monsieur et Madame Schmitt. Si vous n'êtes pas les Schmitt, c'est que vous êtes des cambrioleurs.
On est les Schmitt, hein, Nicole, Monsieur et Madame Schmitt?
Non, il n'y a plus de Nicole. Nadine et Henri Schmitt. Mais tu crois qu'ils existent?
Alors, il ne faut pas révéler ce qu'il en est.
Tu crois qu'ils existent?
Oui, il ne faut pas révéler ce qu'il en est de la véritable identité de Monsieur Schmitt, mais on peut dire que votre partenaire, Stéphane de Groot, est soumis à rude épreuve par cette confusion d'identité. Et vous-même semblez bien surprise d'être Madame Schmitt. Est-ce que vous avez essayé, Valérie, d'imaginer comment vous vous sentiriez si je vous disais que vous n'êtes pas Valérie Bonneton?
Oh, parfois ça m'arrive, vous savez. Ça nous arrive à tous, puisque tous on se cherche. On cherche
au point de vous
identité.
Dire que vous n'êtes pas Valérie Bonneton.
Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est parfois on s'aime pas. Parfois on cherche tous à se dire, mon Dieu, si on était quelqu'un d'autre, alors c'est peut-être ce qui arrive. Voilà, je dis rien de plus. Mais en tout cas, non, je sais qui je suis. Voilà, je crois. À 51 ans.
Qui êtes-vous, Valérie?
Eh ben, écoutez, je veux pas vous parler de moi quand même.
Bah, si on est là pour ça. Bien sûr qu'on est là pour ça.
Mais je dirais ça à mon psy, mais pas à vous.
En même temps, c'est un peu le rôle d'une comédienne que d'emprunter des identités qui ne sont pas les vôtres. Mais c'est vrai qu'à ce point-là, ça n'arrive quasiment jamais. D'emprunter des identités qui ne sont pas les vôtres ou de vous retrouver dans la peau de quelqu'un d'autre,
non,
c'est un peu votre
jamais.
Travail. Mais
ça
là, à ce point-là,
oui, ça
on pousse
jamais.
Les curseurs très très loin.
Ouais. En tout cas, d'emprunter les identités qui ne sont pas les nôtres, c'est pourquoi on adore faire ce métier. Ça, c'est génial. Hein, d'être toujours quelqu'un qu'on n'est jamais, voilà, c'est merveilleux.
Bien, Christiane Loubert, vous venez donc nous parler de votre nouveau roman L'Ogre du Kamtchatka. Comment vous est venue l'idée de cette histoire d'espionnage? Parce que je vous vois surprise.
Alors l'espionnage, figurez-vous.
Vous êtes bien Christiane Loubert.
C'est exact.
C'est exact.
Oui.
Où est passée Valérie Bonneton?
Oui. Christiane Loubert. Alors, appelez-moi Chris.
Chris. Chris.
Franchement.
Et pourquoi situer votre roman dans cette péninsule volcanique russe plutôt que...
Alors, j'ai longtemps réfléchi, en effet, l'espace dans lequel j'allais intégrer cette histoire d'espionnage. J'ai pensé à la Russie parce que Poutine, voilà, tout simplement.
D'accord. Très simplement. Alors, Christiane Loubert, Valérie Bonneton, moi, je suis un peu perdu dans toute cette histoire. Et comme je ne suis pas tout à fait convaincu de votre identité réelle, je vous propose de passer un coup de fil.
Vous ne saurez jamais qui je suis.
À quelqu'un qui pourra peut-être la confirmer.
Oh, Seigneur Dieu, mais
allô,
qui est à l'autre bout du
allô
fil?
Allô?
Oui, allô.
Ah, bonjour Stéphane de Groot.
Bonjour Antoine de Côte.
Bonjour, mais oui, c'est bien.
Mais quelle surprise Stéphane, mais je suis étonnée de te retrouver au bout du fil.
C'est bien Antoine de Côte à l'appareil, je suis désolé de vous déranger mon cher Stéphane, mais j'ai en face de moi quelqu'un qui prétend être Valérie Bonneton et je ne suis pas certain que ce soit vrai. Est-ce que vous la reconnaissez?
Non, écoutez, arrêtez de m'appeler, c'est chaque fois pareil, toujours à la même heure, vous m'appelez en disant, non, écoutez, cette personne, déjà, je la vois tous les soirs, c'est pas possible que je puisse la voir encore.
C'est Christiane, c'est une erreur, Stéphane, c'est Christiane. Tu m'entends, tu me reconnais?
C'est Isabelle, c'est Isabelle.
Oh non, c'est Christiane.
Vous faites actuellement une pièce avec Isabelle Adjani?
Non, Gélina, si vous voulez dire.
C'est un private joke entre les moi, parce que tous les soirs, je dis qu'elle est formidable, et je la comprends avec Isabelle Gélina. Mais Valérie est aussi formidable qu'elle.
Ouais,
Mais qui êtes-vous? Comment on est sûr que c'est bien vous, celui que vous prétendez être?
Vous savez, vous, qui vous êtes?
Non.
Non, on se le demande tous les jours.
Mais non, on ne sait pas, c'est une quête permanente, c'est ça. Et alors, aller au bout de soi-même et se rendre compte qu'il n'y a personne.
En tout cas, deviens qui tu es, Stéphane.
Oui, Socrate.
Oui, c'est Socrate, bravo.
C'est une éternelle question, Stéphane de Groot. Est-ce que vous savez qui vous êtes à la fin de la pièce, le soir?
Mais non, et heureusement, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est une recherche permanente. S'il y avait la réponse, ce serait dommage.
Mais il a le choix entre trois personnages, Schmitt, Bélier, lui-même.
Oui.
C'est
en fait, je devine un petit peu qui je suis dans le regard de Valérie, dans le regard de ma partenaire, dans le regard de ma femme.
Oh, quelle belle petite pirouette.
Mais Stéphane de Groot, on parlait il y a un instant de cette terre lointaine dans laquelle vous aimez vagabonder, à savoir l'absurdie. On peut dire que dans Qui est Monsieur Schmitt, vous êtes chez vous.
Ah oui, je suis un peu à la maison, oui. C'est sûr que l'univers de Sébastien Thierry, c'est cousu sur mesure. Et vous savez, en fait, l'absurde, ce sont des gens comme Sébastien qui sont ancrés dans tout à fait dans le réel. L'absurde, c'est tout sauf n'importe quoi. C'est très tangible. Sinon, on est perdu. Alors qu'ici, on s'égare un peu, mais on n'est pas perdu. C'est comme un jokari. Il y a toujours un fil qui nous retient à quelque chose. C'est un prisme. On voit les choses différemment. C'est ça qui est formidable avec l'absurde, c'est qu'on réinvente quelque chose, mais sur base d'une réalité.
Qu'est-ce que tu fais là? T'es en pyjama? Non, pour savoir.
Non, je suis tout nu devant ta photo. En fait, je me balade devant ta photo et je suis tout nu.
Non, c'était une référence.
Vous êtes nu, Stéphane de Groot.
Je me demandais si t'es en pyjama maintenant.
Vous êtes nu en train de jouer au jokari chez vous. Oui. Dites-moi tous les deux là. Oui, en voyant la pièce et en vous entendant, là, on comprend bien qu'il y a une complicité très forte, un peu comme mari et femme, mais aussi comme des acteurs qui s'amusent.
Oui.
Quand vous êtes dans cet imbroglio, dans tout ce bordel de personnages, il vous arrive de vous déstabiliser.
Oui, mon Dieu, Seigneur Dieu, oui, surtout avec ce Stéphane-là, oui. Oui, ça arrive, c'est terrible. Parce qu'on est franchement assez impliqués, on est très heureux de jouer, d'interpréter les rôles. Et donc, comme on est très concentrés, tous les jours, ça varie un peu, mais toujours dans cette concentration. Donc, on regarde dans l'œil de l'autre, on voit que quelque chose a dévié.
Alors,
et ça nous fait rire, parfois.
Parce que la mécanique est extrêmement précise.
C'est précis.
Vous n'avez pas
le
droit d'aller vous balader à droite et à gauche.
On n'improvise pas. Mais par contre, on joue différemment chaque soir. N'est-ce pas, Stéphane?
Oui, mais c'est tellement fou, c'est tellement vivant comme sentiment et comme émotion qu'on ressent. C'est qu'effectivement, c'est comme un cuisinier. On recommence le même plat tous les soirs, mais avec des ingrédients qui n'ont pas la même saveur, forcément.
C'est sûr.
Et sur des ingrédients vivants. Et je vous assure, mais c'est pas pour mettre de la pommade, mais quand vous avez la chance de jouer avec une comédienne comme Valérie, il y a le sens du rythme de la comédie et du jeu et de l'échange. C'est un pied intégral. Ah ben oui, mais c'est
pareil pour toi, Stéphane. Pareil, vraiment. C'est-à-dire qu'on se sent en confiance, parce que si d'un seul coup il y a n'importe quel problème, n'importe quel truc, tout est naturel, tout est naturel, on joue avec tout. Et Stéphane, il a vraiment ça ultra facilement, donc il peut nous arriver quoi que ce soit, on est tranquille. On peut tout faire, on peut se sentir libre.
C'est très agréable de jouer comme ça. C'est communicatif parce que les gens nous suivent là-dedans, ils sont emportés par notre tourbillon fou.
Ça monte en puissance.
Ouais.
Bien sûr.
Et juste un mot de l'affiche de qui est Monsieur Schmitt. Schmitt, photo en pied d'un couple, monsieur en cravate et petit pull sans manche, tient madame tout d'orange vêtue par les épaules, entre un berger allemand. Est-ce que c'est l'image que vous faites de la normalité dans le couple? Et qui est ce berger allemand?
Il y a quelque chose d'un peu étouffant, en fait, dans l'affiche avec ses costumes étriqués, ce truc, et puis ce papier peint derrière, un peu limite angoissant quand même.
Un peu Shining, le papier peint.
Un tout petit peu, le papier peint, un peu une petite boîte un peu enfermée où on est un peu oppressé. Ouais. On veut sortir de là.
Le berger, c'est pas un chien, c'est un enfant qui est très poilu. Hein.
C'est un enfant. Il s'appelle Schnell, pour votre information. Si vous venez voir la pièce, sachez que le chien s'appelle Schnell.
Et vous espérez pouvoir mettre les pieds au Luxembourg, un de ces quatre ou pas?
Oh, ouais, on a hâte, Stéphane, on a hâte d'aller jouer là-bas et de présenter la pièce.
On croise les doigts.
les spectateurs comprendront en allant voir cette pièce.
C'est oui,
hilarante.
Oui.
Bon, merci Stéphane d'avoir pris notre appel.
Oui, c'est Stéphane.
Moi, vous pensez bien. Et c'est pour la valise RTL, donc du coup, c'est combien?
Oui, bien sûr. Oui. Bah, je vous laisse avec
mais,
le standard.
Mais ta voix n'a pas été modifiée, non. C'est dommage.
À ce soir, Valérie. À ce soir, Stéphane.
À très bientôt, Stéphane. On vous retrouve donc très bientôt au théâtre Édouard VII, enfin, dès ce soir même. Bien, nous allons parler plus longuement de la pièce, mais je vois qu'il est 16h32 et que c'est donc l'heure d'un pop break dans ce pop-pop-pop. C'est l'heure des pop news. Charlie.
C'est bien mon nom. Jared Leto est définitivement un acteur de type caméléon. Le voilà désormais marié à Anne Hathaway dans la peau de l'homme d'affaires Adam Newman, cofondateur de l'entreprise de location de bureaux WeWork, le tout d'après une histoire vraie. La compagnie était sur le point de faire l'objet d'une introduction en bourse, mais la série dont il s'agit étant titrée We Crashed, et l'homme en question étant un peu mégalo, je vous laisse imaginer la suite.
WeWork isn't just a company. It's a movement. We've got the dream.
It's Adam will manifest it.
It's magic and your magic.
When I say we, you say what? We are, we are, we are.
All you have is me.
You know you're not God, right?
Yeah.
You have to admit, I do look a little bit like him.
Pas Dieu, mais pas loin. We Crashed, ça arrive sur Apple TV le 18 mars.
Alicia Keys chante l'alphabet en imitant Adèle. Non, ceci n'est pas un camoulox, mais un happening jeu dans l'émission de Jimmy Fallon sur la chaîne américaine NBC. Certes pas une chanson à texte, mais la prestation reste impressionnante. Une vidéo à retrouver sur le compte Twitter 3615 popopop.
Un nouveau titre pour les rockers indie Tex-Mex de l'Arizona, Calexico. Ambiance toujours un peu mariachi pour El Mirador. El Mirador, ce sera aussi le titre du 10e album de Calexico qui sortira le 8 avril.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Eh, merci, Charline.
Je misais tout sur Alicia Keys parce que je voulais entendre vos jolis brins de voix, mais en fait, je vois que vous êtes... Non, ça, c'est Kermit. Pardon, ça marche
merci,
pas.
Merci beaucoup, ma chère Charline. Bien, reprenons cette conversation. Nous parlons aujourd'hui de la pièce de Sébastien Thierry, qui est Monsieur Schmitt, dans laquelle on peut applaudir Valérie Bonneton et Stéphane de Groot au théâtre Édouard VII à Paris. Alors, vous interprétez donc Madame Schmitt ou Madame Bélier, selon le point de vue, et je dois avouer qu'il y a des moments où je vous ai trouvé absolument inquiétant. Valérie.
Ouais,
trop convaincante même. Oui, j'ai eu l'impression que vous pourriez me faire douter de ma propre raison. Ça vous a amusé de jouer sur ce terrain?
J'adore.
Par moments ambigu.
Bah oui, ambigu, puis ça devient violent et on ne sait plus où on est. Alors ça devient plus... Voilà, c'est drôle, c'est très drôle. Et puis après, c'est ce qui m'a plu, parce qu'on ne sait plus où on ne sait plus dans la tête de qui on est avec qui, voilà. Ça questionne beaucoup et j'ai trouvé ça génial, en fait. Je me suis dit dans l'écriture et... Oh ben voilà.
Mais le public jouit de cette de ce
beaucoup.
Déséquilibre et de...
Ouais, beaucoup. On dit, oh là là, c'est très oh là là, quand c'est très inattendu à partir de ce moment-là et bon, voilà quoi. Donc c'est ça veut dire que c'est réussi parce que la pièce a déjà été jouée il y a 10 ans avec Richard Berry et Raphaëline Goupillot et voilà, je crois que c'est très différent. Très très différent.
Mais c'est la résilience de Madame Bélier face à l'improbable situation qui la rend très inquiétante, contrairement à son mari qui lui se débat, sans rien spoiler. Comment est-ce que vous avez travaillé son trajet à elle ?
Je suis complètement avec lui, complètement bienveillante, complètement dans sa tête. Je suis lui, en fait, pendant longtemps. Parce que c'est lui, c'est sa vision, c'est son point de vue à lui. Mmh. Et ensuite, je le réveille. Donc, je vais pas raconter si je raconte.
Non, raconte pas tout.
Voilà, mais voilà. Donc, donc je suis lui. D'ailleurs, j'ai le même costume au départ, le pyjama, tout ça dont on parlait tout à l'heure. Donc, je suis sa résonance un peu. Oh, quel beau mot. Je sais pas, j'ai utilisé ça d'un seul coup.
Ça parle.
Mais dans des registres tous très différents, ça c'est une certitude. Mais il serait pas un peu fatigant, vos maris de fiction? Parce que Monsieur Bélier, Monsieur Lepic, Monsieur Grandet dans un autre registre vraiment très différent, Monsieur Chamodo dans Venise n'est pas en Italie, Max dans Les Petits Mouchoirs. Ça va la charge mentale, Valérie, vraiment?
Eh oui, on en a encore là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, on en est là. Les charges mentales, voilà, les maris, c'est... Les couples. Vous voulez qu'on parle du couple?
Non, mais c'est très étonnant.
Oui, c'est à dire qu'on parle de couple,
on vous projette souvent dans des rôles de femmes avec des maris compliqués quand même. Hein.
Mais qui est projeté dans des rôles de femmes avec des maris pas compliqués, en fait? Dites-moi, surtout.
Surtout, ça ne fait pas des très bonnes histoires. Quoi.
Bah non. Ouais. Souvent, les rapports de couple sont compliqués. Je ne connais pas une histoire où les rôles ne sont pas compliqués, les rapports ne sont pas compliqués, en fait. Ou alors, si, il y en a, mais... Mmh.
Vous
les tenez en tout cas à bout de bras pour certains.
Ah oui, je les porte. Ouais. Ah oui.
Vous les attirez, vous les attirez peut-être.
Non, les porter vraiment.
Vous les voulez.
Non, jamais de la vie, je me permettrais.
Non. Mais oui, peut-être un moment on me voit comme quelqu'un de fort alors que je suis si fragile.
Valérie Bonneton, deux mots sur Jean-Louis Benoît qui signe la mise en scène et que vous retrouvez une bonne vingtaine d'années après avoir tourné avec lui dans La Mort du Chinois.
Exactement, j'ai joué avec lui dans La Mort du Chinois. Monsieur Bobol à la Comédie Française aussi, quand j'étais au conservatoire, j'avais joué avec lui. Et c'est un metteur en scène, c'est merveilleux, qui a un humour incroyable et je me suis régalée de le retrouver. Ouais.
Dites-moi deux mots encore sur Jean-Louis Benoît, parce que je suis très très client moi de Jean-Louis Benoît.
Ah oui, c'est vrai.
Vous
me dites ça. Écoutez, je vais vous dire deux mots. Ouais. Il est irrésistible. C'est-à-dire quand il dit non, attendez, il vient sur scène et qui joue, c'est le plus grand des acteurs.
Ouais.
Donc je me régale de travailler avec lui et j'espère que je retravaillerai avec lui. J'ai attendu
20 ans.
Ouais. Je me suis dit, je voulais retravailler avec lui parce que j'aime ce mec, quoi.
Et Antoine l'abordait il y a un instant, monsieur et madame Schmitt sont luxembourgeois, une source de blagues assez inépuisable dans la pièce.
Vraiment, c'est pas gentil pour les luxembourgeois. Je veux dire, c'est pas gentil, Sébastien Thierry. Franchement, se moquer, la moquerie est facile.
Mais c'est qu'on a l'impression que le Luxembourg, c'est vraiment déjà un très bon point de départ pour créer le décalage.
Oui, c'est tout. Bon, on va pas en dire plus, c'est dommage.
Non.
Enfin, bon.
Voilà. Non, enfin, vous n'envisagez pas d'aller jouer la pièce au Luxembourg, dans l'immédiat.
Ce serait pas mal. Ouais.
D'accord, mais je serai là ce soir.
Ce serait cocasse.
Bien, qui est Monsieur Schmitt? C'est une pièce formidable avec la formidable Valérie Bonneton et l'épatant Stéphane de Grotte que vous pouvez voir jusqu'au 2 avril au théâtre Édouard VII. Valérie, dans la suite de Pop Pop Pop, nous allons parler de...
Don't call me all the time, okay? We're not boyfriend and girlfriend.
I think, you know, you doing this is so commendable. You know, using your profile to keep the message alive about the Holocaust.
De Romain Gary, d'Émile Ajar, qui est la même personne, de Licorice Pizza et des Barkers, ces chiens qui reprennent les Beatles. Mais avant ça, allons faire un tour dans les bois. On écoute un morceau de Leon Russell, Out in the Woods.
Walking round in circles.
Léon Russell à Out in the Woods, ça c'était en 1972. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Bien entendu, le générique de Twilight Zone, l'émission culte des regrettés frères Bogdanov, enfin qui avait une émission qui s'appelait Temps X et où était diffusée Twilight Zone et qui diffusait
la quatrième dimension.
Quatrième dimension, titre français. C'était votre première rencontre avec l'étrange ?
Ah oui, j'étais dingue de la quatrième dimension. Parce que déjà, on n'avait pas le droit de regarder la télé chez nous, enfin, mes parents, donc j'allais chez mes grands-parents le samedi, je regardais tout ce que je pouvais. Et donc, la quatrième dimension, mais j'étais dingue, j'étais archi fan, et je me souviens encore d'histoires qui m'ont marqué. Vraiment, de courts-métrages, un mec passionné de lecture, qui s'enfermait dans une banque avec des grosses lunettes, puis c'est la fin du monde, et c'est le seul survivant, donc il se retrouve avec ses piles de livres, il est le plus heureux du monde, enfin, et il marche sur ses lunettes. Et il n'a plus rien. Ça m'avait choqué, ce truc.
C'est ça pour vous, la pop culture ?
Ah bah oui.
Ouais. Ouais. Très bien, j'adhère, je prends. Eh bien, sans plus attendre, maintenant, c'est l'heure de votre popliste, Valérie. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série. Le livre que vous avez choisi, Valérie, c'est Gros câlin de Romain Gary. Alors, Charline, qui est ce gros câlin? Et si Romain Gary faisait des gros câlins, que faisait Émile Ajar?
Chaque chose en son temps. Gros câlin, c'est un python adulte capable d'enlacer dans une puissante étreinte Monsieur Cousin, un statisticien troublé qui a un peu de mal à nouer des relations avec ses semblables.
Alors, Valérie Bonneton, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous choisissez un auteur qui avait lui aussi plusieurs identités.
C'est vrai, vous avez raison, c'est fou.
C'est fou.
Il a pas eu tort, il a eu raison. En tout cas, ce livre, c'est un véritable coup de foudre, vraiment. C'est-à-dire ce mec qui adopte un python que tout le monde déteste parce qu'il est repoussant. C'est en fait son autre lui-même, certainement, ce python. Et il y a, à travers ça, énormément de tendresse, d'amour, de solitude. Et je sais pas, dans ces bouquins, on parle toujours de différence, quoi. Donc ce python, c'est la différence. Et c'est après, il doit le nourrir avec des souris, il peut pas. Donc c'est. Et puis surtout, c'est tellement inventé, tellement poétique, tellement drôle. Romain Gary, c'est fou, quoi, l'écriture. Je me dis, j'avais lu il y a longtemps La vie devant soi, et puis très longtemps. Et je me suis dit, tiens, je le relis. Et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est fou. Et donc, j'ai lu Gros câlin et j'ai un coup de foudre avec ce livre.
Écrivain sublime que ce Romain Gary, Émile Ajar. Bon, j'avance parce que je vois que la pendule tourne.
Oh, dommage, je lirai pas l'extrait alors.
Allez, lisez-le moi.
Bah non, vous voulez pas que je lise.
Moi aussi, je veux bien. Allez.
Ah bon, alors, bah ça y est, j'ai perdu ma page. Bon, alors ça sera un autre moment. Eh bien, c'est dommage. C'est dommage. Mais pourtant je la
Mais t'es pas loin de la voir.
Parlons d'autre chose pendant ce temps-là. De quoi pourrions-nous parler?
Est-ce qu'elle arrive? Est-ce qu'elle le trouve?
Eh ben non, tant pis. Oh, quel dommage.
Bon, c'est pas grave. Gros câlin.
Gros câlin de Romain Gary, le livre recommandé chaudement par Valérie Bonneton.
Je suis tellement malheureuse de ne pas pouvoir le lire. Attendez,
peut-être vous allez le retrouver en répondant à ma question suivante, parce que là, on va parler de cinéma.
Allez-y.
Et votre film du moment, c'est Licorice et Pizza de Paul Thomas Anderson. C'est un petit retour vers le passé, en compagnie d'un des cinéastes les plus surprenants qui soit dans le bon sens du terme. Charline, de quoi s'agit-il?
Année 70, Gary Valentine, 15 ans, un enfant acteur ravi de le mentionner dès que faire se peut, s'amourage d'Alana Kane, une photographe de 25 ans. Cette dernière, amusée par le personnage, accepte de l'accompagner à New York pour une émission de télévision.
If I asked for your phone number, would you give it to me?
Why should I give you my phone number?
So I can call you?
I don't know, Gary.
Why not?
How are you going to remember it?
There's only 7 numbers.
758-4686.
758-4686.
Don't call me all the time, okay? We're not boyfriend and girlfriend. Remember that.
Ah, elle l'a retrouvée. Mais attendez, d'abord, dites-moi ce qui vous plaît tant dans cette pizza, Valérie Bonneton.
Alors, tout simplement, c'est tout ce que j'aime, je crois. C'est tout ce que j'aime, parce que c'est merveilleusement bien réalisé, les acteurs sont sublimes, et puis les jeunes, cette génération-là me touche beaucoup, me font penser à mes enfants, et je trouve que c'est à cet âge-là, en fait, où tout se définit pour la vie. J'ai l'impression qu'on ne change pas beaucoup après. On reste toujours les mêmes. Ça m'a beaucoup touchée, quoi. Voilà, j'ai trouvé ça très beau. Très belle histoire d'amour.
Eh bien, je vous autorise donc à lire cette
merci, je vais lire très vite, vous allez voir.
Retrouvé. Non, pas trop vite.
Allez-y. Voir à quel point je vais lire vite. Vous n'allez pas le croire, mais ce qui me bouleverse chez les souris, c'est leur côté inexprimable. Elles ont une peur atroce du monde immense qui les entoure et deux yeux pas plus gros que deux têtes d'épingle pour l'exprimer. Moi, j'ai des grands écrivains, des génies picturaux et musicaux. Mais c'est très bien exprimé dans la 9e symphonie de Bach, dis-je, de Beethoven. Un de ces jours, je vais me foutre sérieusement en rogne. Ils veulent pas que ça change. Voilà, grise ou blanche, c'est toujours une question de tendresse, dis-je. Vous vous faites des idées. Ça, c'est le curé qui lui répond. Hein, je vous explique quand même. Vous vous faites des idées. D'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, les pitons ne mâchent pas, ils avalent. Alors, vous comprenez, cette question de tendresse n'intervient pas. Et on ne se comprenait pas. Et puis, brusquement, il trouva. Faites-le nourrir par quelqu'un d'autre, votre animal. Je fus tellement étonnée de ne pas y avoir pensé moi-même que je fus pris d'angoisse. Il me manquait quelque chose, c'est évident. Je me taisais en battant des paupières à cause de l'ahurissement. Toujours cette histoire d'œuf de Saint-Colomb. Je manque de simplicité. J'ai essayé de me rattraper. Quand je parlais de tendresse tout à l'heure, je ne parlais pas de la qualité de la viande, dis-je. Vous souffrez de surplus, dit le père Joseph, d'excédent si vous préférez. Et je trouve un peu triste, monsieur cousin, qu'au lieu de le donner à vos semblables, vous le donniez à un python. On se comprenait de moins en moins. Comment de surplus? Vous crevez d'amour. Et au lieu de faire comme tout le monde, vous vous attaquez aux pitons et aux souris. Vous voulez que je m'arrête là?
Non, c'est très bien, c'est parfait. Romain Gary, gros câlin, ben oui. Absolument, je suis ravi d'avoir retrouvé cette petite musique magique de Gary. Merci Valérie, merci beaucoup. Je passe à la série.
Je vous en prie. Du
Coca-Light, pardonnez-moi.
Du Coco-Piton.
Oui, du Coco-Piton. Votre série, la série dont vous voulez parler, c'est Extra, le chef-d'œuvre de Ricky Gervais, idole absolue de Charline Roux.
Vous connaissez
Charline, cet Extra?
C'est tout simplement la série la plus drôle du monde. On dit Millman. Ricky Gervais est un éternel figurant qui écume les plateaux sur chaque tournage, une vraie star. Et dans cet épisode, Kate Winslet, qui joue une nonne dans un film ayant pour toile de fond l'Holocauste, et la comédienne d'expliquer les raisons toutes particulières pour lesquelles elle a accepté le rôle.
I think, you know, you doing this is so commendable, you know, using your profile to keep the message alive about the Holocaust.
My God, I'm not doing it for that. I mean, I don't think we really need another film about the Holocaust, do we? It's like, how many have there been? You know, we get it, it was grim, move on. No, I'm doing it because I've noticed that if you do a film about the Holocaust, guaranteed an Oscar. I've been nominated 4 times, never won. That's why I'm doing it. Schindler's Bloody List. The Pianist. Oscars coming out of their arse.
Les extras de Ricky.
J'adore. Surtout, ce que j'adore, c'est qu'ils mettent en valeur les petits personnages. Les personnages dans l'ombre, les figurants.
Les figurants, les fameux figurants, les extras.
Donc c'est top. C'est vraiment super.
Ben voilà, un commentaire qui est bref et intense.
Ben voilà.
Ah oui, non, mais très bien. Écoutez, je rattrape un peu mon horloge. Enfin,
je peux faire plus court.
Non,
si vous
enfin,
ce sont deux figurants.
Enfin, votre chanson du moment, Valérie, c'est, et j'ai du mal à croire ce que je vais dire, parce que je rappelle à nos auditeurs que nos invités sont entièrement libres de leur choix. Vous avez donc choisi les Beatles Barkers, des chiens qui chantent les Beatles.
Mais pourquoi pas?
Mais oui, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas?
Alors pourquoi pas?
Oui, pourquoi pas?
Parce que c'est
oui,
Chanel qui chante.
J'en parle ou on le réécoute?
Non, c'est Chanel qui chante peut-être sur le.
Il fait partie, ouais, très probablement. Non, c'est parce que ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est top. Et puis en ce moment, je suis très touchée par les chiens parce qu'il m'arrive quelque chose. C'est que j'ai écrit un livre sur mon chien. Je suis en train de le terminer, le livre. Il va sortir au mois d'octobre. C'est un hasard. C'est Marc Duguin qui m'a dit Clara Dupont-Monod crée une collection qui s'appelle Bestiale, autour d'artistes et leur rapport à l'animal. Donc Marc Duguin a écrit un livre avec le point de vue de ses moutons. Et moi, je fais la même chose avec mon chien qui s'appelle Gaston.
Gaston.
Voilà, c'est le point de vue de mon chien.
C'est quel genre de chien, Gaston?
C'est un bichon maltais, c'est une petite peluche blanche.
Un petit bichon maltais.
Voilà.
D'accord. On sort en plus sur les. Donc, ce que pense bichon.
Donc se mettre dans la peau d'un chien, c'est assez merveilleux, quoi. Et donc là, ça m'amuse, voilà.
Eh bien, mettons-nous dans la peau d'un chien, de plusieurs chiens plutôt, pour chanter les Beatles. Les Beatles, Barker's, I Saw Her Standing There. Intégrale des Beatles, Barker's I Saw Her Standing There, le choix absurde de Valérie Bonneton, des chiens et des chats qui chantent les Beatles. Et Valérie, pour finir en toute absurdité cette émission, je vous propose d'écouter n'importe quoi, moi aussi. Alors littéralement n'importe quoi, puisqu'il s'agit du grand n'importe quoi proposé chaque semaine par Alexandre Verret à Pop Pop Pop.
S'il vous plaît, des pickpockets sont susceptibles d'agir dans cette station. Je répète, des pickpockets.
Mon micro.
N'importe quoi.
Après des années de travail, nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons enfin réussi à croiser un alpaga avec un mouton angora. L'alpagora. Le problème avec cet hybride doté de longs poils, c'est la facture chez le toiletteur. Regardez.
Parce qu'on en fait
N'importe quoi, n'importe quoi.
Moi, la lettre que je préfère, c'est la lettre R. Quel plaisir je prends quand je prononce des mots comme réverbère, réverbère, rastaqué, rottweiler, rime, séros, réfractaire, ramoneur, abouti, rabis-moi, ré, salsi.
Alexandre Verret, son grand n'importe quoi hebdomadaire. Voilà, c'est ici que s'atteignent les Athéniens. Merci Valérie.
Merci bon Antoine.
Je rappelle que la pièce qui Monsieur Schmitt de Sébastien Thierry, que vous interprétez aux côtés de Stéphane De Groot, c'est au théâtre Édouard VII, et cela jusqu'au 2 avril. Merci Charline.
Merci.
Et à demain j'espère.
Oh oui, oui, non, c'est prévu comme ça.
Bon, merci. Et merci aussi à toute l'équipe de Pop 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 et à Tiffany Battistel qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans l'émission, une émission spéciale sur le génie de l'illustration Gustave Doré avec Alix Paré et Mathieu Lauffray. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.